Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est MDR, le grand retour de ce rendez-vous avec les Comédies Françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, je le rappelle, on aime analyser, discuter des Comédies Françaises. Et aujourd'hui, on va passer en vue tout ce qui s'est fait de mieux et de pire dans le genre. Et à mes côtés, pour ce fait comeback, j'ai trois personnes sûres. La passionnée Perrine Kenson.
Salut.
Le très rigolo Vincent Manilève.
Ah, je pensais pas que c'était moi, mais merci, bonsoir.
Et le petit prince de la vibe, Max Besnard.
Bonsoir.
Oh, putain, on est bien. On est parti.
Je vous appelle, je vous ai détecté depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mila se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus.
Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout.
Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses.
Il faut qu'elle dorme.
Et Catherine, ça me fait plaisir.
Mais non,
voilà, chiant, Paris Poppins.
Bah, tu veux pas de moi, alors?
Ils ont prévu de rester combien de temps?
Bah, la semaine.
Oh.
Je vous vois heureux. Je vous vois heureux. Et comment ne pas l'être, puisque c'est le retour de une des comédies qui a le mieux marché de ces dernières années. C'est la suite directe. C'est Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs que j'ai l'habitude d'appeler les petits mouchoirs 2. Mais je crois que Guillaume Canet a une espèce de petit rejet des petits mouchoirs. Petit rejet des petits mouchoirs. Et donc, du coup, il a fait une suite, mais celle-là, c'est une suite un peu plus réfléchie, un peu plus posée. Il y a quelques années qui se sont écoulées et du coup, il a essayé de faire mûrir ses personnages. Qu'en avez-vous pensé, Perrine? Je te vois écarquiller les yeux.
J'ai prié intérieurement, genre, me fais pas commencer sur ça.
Si tu veux, il y a Max aussi qui est chaud bouillant pour en parler.
Moi, j'aimerais revenir sur ta magnifique intro. En quoi est-ce qu'elle est plus réfléchie?
Parce que il a eu un peu honte des petits mouchoirs.
Ce qui est normal.
Ouais.
Ah bon?
Ouais, j'ai vu des interviews où il était là, genre, les petits mouchoirs, je sais pas, il sentait qu'il avait... Il s'est pris dans la gueule les critiques, et sans doute, il s'est mis à réfléchir en disant qu'est-ce qui va pas dans les petits mouchoirs. Et ce film-là, c'est la synthèse de ces années de réflexion, à mon avis, hein, c'est ce que j'interprète. C'est aussi pour ça que j'ai été surpris en mal, je sais pas comment mettre ça. Allez Max, tu veux te lancer?
Je peux pas dire que, en toute honnêteté, je peux pas dire que je sois fan des petits mouchoirs. J'ai même trouvé ce film assez détestable. On va pas revenir dessus, mais voilà, moi je suis pas du tout client, donc je suis malheureusement pas parti avec un très bon a priori. Encore une fois, j'y suis allé, donc comme d'habitude, hein, sans avoir vu ou lu quoi que ce soit sur le film avant.
Ah ouais, surtout, tu te spoil pas, hein, parce que
tu te spoil surtout pas. Il y a un twist de ma boule.
C'est les Avengers français.
Et donc, bon, bah, écoute, j'ai envie de dire un petit peu la même formule que le premier, si ce n'est qu'il se passe, j'ai trouvé encore moins de choses que dans le premier. C'est hyper prévisible et je trouve que tout tombe à plat en fait. Ça tombe systématiquement à plat, c'est lourdingue et c'est jamais pertinent, ça vise toujours à côté. Ça a été pour moi un ennui absolu.
Perrine,
les petits mouchoirs, bon, moi non plus, j'étais pas très cliente, hein, clairement. Mais c'est vrai que les petits mouchoirs ont une espèce de vibe petit bourgeois, justement, vraiment bourgeois, qui regarde et qui te dit « Ah, heureusement que les gens du peuple, ils m'apprennent des choses. » Et là, en fait, je pense qu'on a un peu quitté la vibe petit bourgeois, même si elle est toujours là, clairement, hein, parce que là, on est plus dans le game d'une plus belle maison encore.
mais parce que littéralement, à un moment, ils disent « Bah, tu veux pas prendre cette maison, tu la laisses pour ta femme. On en a loué une encore plus luxueuse.
Encore plus mieux, avec vue sur mer. Et donc, ah bah c'est bien. Mais donc là, mais n'empêche que le film est beauf en fait. Il y a un truc hyper, hyper beauf tout le long. Il y a un, je comprends pas la plupart des motivations des personnages et surtout, je comprends pas l'idée que ces personnages aient envie de se retrouver. Parce que clairement, on passe, mais je sais pas, une heure du film à nous expliquer oui, bon bah voilà, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, mais on avait envie de se retrouver, mais en même temps, on s'en met plein la gueule parce que vous êtes tous des connards.
C'est ça.
Donc, et tu fais genre, bah vous voyez pas en fait, parce que si c'est pour vous mettre dans des états pareils, ça n'a aucun intérêt de vous faire autant de mal, les gars.
C'est-à-dire qu'il passe,
c'est vraiment problématique.
Il passe, enfin tous les personnages passent facile, les tu disais une heure dans le film, ouais, c'est vraiment, mais la majeure partie du film à essayer de se convaincre qu'ils s'apprécient encore les uns les autres et qu'ils ont des choses à partager, alors qu'ils n'arrêtent pas de dire le contraire et de montrer le contraire. Et Cluzet, donc Max, le personnage finalement qui devient le personnage principal de du film, de l'histoire. Il a limite pas une seule réplique qui prononce calme, tu vois, de genre de façon posée, calmement. Il passe son temps à hurler. J'avais l'impression, sérieusement, j'avais l'impression de voir un biopic sur Mélenchon, la première demi-heure, quoi. Sérieusement, version La République, c'est moi, tu vois.
Le mec hurle.
Le mec hurle du début à la fin du film et il hurle sur ses amis en disant mais je vous déteste, vous m'avez abandonné, mais je vous déteste, mais vous m'avez abandonné.
Mais vous êtes mes poteaux.
Oui. Je vous déteste.
Mes frérots.
Mais buvons une bouteille de vin et puis allons faire du saut en chute libre, quoi. Mais il y a en même temps ce personnage, tu vois, justement de Max, le personnage de Cluzet. Je pense que c'est finalement le personnage qui m'intéresse le plus en fait. Là où tous les autres sont ultra caricaturaux et c'est
tous des facettes de Canet. Hein. C'est Canet a toujours dit tous les personnages c'est moi, même les enfants.
Waouh! Et donc, dur là. Et donc, je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. Mais voilà. Enfin, l'idée, c'est que ce personnage-là, finalement, qui est quelqu'un qui a une espèce de colère permanente, en effet, pendant tout le film, finalement, c'est peut-être celui qui, dans son arc narratif, traverse la chose qui m'intéresse le plus, la vraie crise, une crise vraiment compliquée. Là où les autres personnages, finalement, à part peut-être le personnage de Pascal Arbiot, qui je trouve est peut-être le plus subtil de tous les autres personnages, parce qu'elle est plus douce, elle est un peu plus intéressante, et je trouve qu'elle le joue d'une façon, en tout cas, avec plus de subtilité, cette femme qui a su se réinventer suite à une séparation et voilà, qui décide de reprendre sa vie en main. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt touchant et aussi parce qu'elle est un peu en retrait, peut-être. C'est peut-être pour ça que je l'aime un peu plus. Mais sinon, je trouve que tous les autres, et Marion Cotillard en pole position, Marion Cotillard, je ne comprends pas ce personnage. C'est quoi l'idée de cette femme alcoolique qui dit pendant tout le film qu'elle n'en a rien à carrer de son enfant, mais vraiment rien à carrer.
Il y a des scènes
où
elle nous montre en très mauvaise mère, sous le regard désapprobant de Gilles Lelouch qui fait non, quelle mauvaise mère,
dit-il, alors qu'il n'est pas capable de s'occuper de sa gamine pendant tout le film.
Oui, c'est ça.
Et qu'il la refile à quelqu'un qu'il déteste. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, c'est la haine, le film en fait, c'est ça vraiment la haine, quoi. Je sais pas, mais je comprends pas. Moi, ne vous voyez plus, les gars, ne partez plus en vacances ensemble, arrêtez tout ça. Vous faites du mal, vous faites du mal aux gens qui regardent. Arrêtez, ça a failli finir en suicide, cette affaire, donc arrêtez, quoi.
Alors, évidemment, c'est vrai que ça. En plus, Cluzet tente fait une TS littéralement devant tout le monde.
Ouais.
Devant tout le monde. Et trop, pas de bol, la corde est trop longue. Ce qui est vraiment, vraiment le truc le plus ballot. C'est que même pour ça, il est un peu nul.
Mais il le dit, hein. Même ça, il le rate.
Il y a quand même un truc, c'est que déjà, ce film est plus court que le précédent. Il dure que 2h15.
C'est pas l'impression que j'ai eue.
C'est pas la sensation.
J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus long.
Parce que je crois que le précédent, il durait 2h30 passé. C'est horrible. Et. Je crois que tu as mis le doigt sur ce qui me dérange, c'est parce qu'il y a beaucoup de types de comédies qui me dérangent, et celle qui me dérange le plus dans le cinéma français, c'est la comédie de potes en vacances. En général, c'est très, 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 très... Il faut vraiment être bon pour s'en sortir. Et tu vois, la première qui me vient en tête, c'est Barbecue, tu vois. C'est horrible. C'est horrible.
Oh, oui, ouais,
non, non, mais c'est atroce, quoi. C'est...
Je l'avais snap, ça.
Oui, non. Thanos.
Thanos,
c'est la comédie française. mais oui, non, il y a vraiment un truc horrible qui se passe dans les trucs de comédie. Et... ils sont en vacances, ils ont rien à faire, et tu disais à juste titre, il y a un seul arc dans le film, c'est François Cluzet, et l'arc de, enfin son histoire, c'est il veut vendre la maison, et à la fin, spoiler, à la fin il la vend pas parce que c'est une personne bien. Oui, c'est une belle personne.
C'est une... Tant pis, en plus, l'idée de garder la maison, enfin, il nous fait clairement comprendre qu'il est broke de chez broke. Enfin, ouais. Il a vraiment
il y a pas de
thunes.
Résolution.
Et il n'y a pas de résolution. C'est genre, bon, bah, c'est pas grave, on va rester dans la merde, en fait. Mais au moins, j'ai une maison au Cap Ferré ou à Déversé.
Enfin. Avec des si beaux souvenirs avec mes amis, avec mes potos.
Avec mes potos que je déteste.
Ça permet de payer, de vivre, enfin, de payer, de remplir son frigo, les souvenirs. Donc, c'est vrai que ça est utile. Mais non, enfin, je comprends la démarche, en fait. C'est-à-dire, je comprends la démarche. Mais encore une fois, avec tout le reste, ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qui refusent de fonctionner. Et je pense que pour moi, presque le pire, c'est le sacrifice de Valérie Bonneton. Je crois que là, vraiment...
Il y a une vraie raison, je crois, en fait.
À sacrifier Valérie Bonneton à cette point-là. Et puis même, et Garcia. Et José Garcia.
Sacrifier dans les bras de José Garcia, c'est, ouais. C'est un truc qu'on s'imaginait pas. En fait, c'est parce qu'au moment de tournage des Petits Mouchoirs, elle était dans la vie avec François Cluzet. Donc elle partageait des scènes et là je crois que métaphoriquement, je sais pas si non, c'est intentionnel, ils les ont littéralement séparés, ils sont à 300 mètres, ils se rencontrent jamais du film.
Ouais, non, ils se voient de loin quoi. Ouais. Mais ça je peux comprendre, pourquoi pas, peut-être que j'en sais rien si c'est lié à des trucs de divorce ou quoi que ce soit.
Mais je sais pas si c'est pour symbolique ou quelque chose. Je sais pas, mais tout ce que
je sais c'est qu'au bout du compte, elle est littéralement sacrifiée pendant tout le film. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle est détestable, on n'a aucun intérêt pour elle et clairement le film te dit. À chaque fois que les autres la voient, ils font de la trahison. Donc finalement, elle est l'archétype du mal, en fait. C'est quand même terrible. C'est terrible de faire ça à un personnage à ce point-là.
C'est d'autant plus un gâchis que son rôle dans le premier film était quand même plutôt bien. Et là, t'as l'impression, parce que vraiment, avec cette suite, il balaye absolument tout ce qui a été à peu près positif installé dans le premier film. Est-ce qu'on en parle du revirement, du deuxième revirement du coup du personnage joué par Magimel?
J'allais venir.
C'était quand même le twist du frisson de la honte dans le premier film et c'est encore le c'était amené de façon tellement maladroite, tellement vilaine.
L'homosexualité, c'est deux personnes du même sexe qui s'aiment. Et ce n'est pas un problème. C'était une des punchlines, c'était la phrase du
premier. Oui, je sais. c'était amené de façon tellement gênante dans le premier. Et tu te dis, voilà, ils l'ont fait passer. Et là, ils se disent, Takane qui a dû se dire, ah, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée. Bon, allez, tant pis, il va refaire un coming out, mais dans l'autre sens, un coming back.
C'était une phase.
C'était une phase de sa vie, c'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que le personnage de Magimel a...
Mais c'est un bon papa, hein.
Bien sûr.
Parce qu'à la fin, il prend son fils dans ses bras.
Son fils dans
ah oui, c'est
bras.
Aussi le truc que tu vois pas, qui est vraiment en souterrain du film, que le fils est vénère contre son père. Ouais. Et tu fais genre, à la fin, tu fais, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu en fait.
Mais grâce, il fait ce qu'on appelle un hug anti-homophobe. C'est-à-dire que grâce à son hug, il soigne l'homophobie de son
c'est
fils.
C'est horrible ce que tu dis.
Mais non, mais c'est ça que j'ai vu.
C'est
quoi.
Ce que tu dis, mais c'est la vérité.
Je sais pas si c'est l'homophobie ou c'est juste qu'il lui en veut par rapport à sa mère. Mais c'est tellement pas clair parce que c'est tellement encore une fois foutu.
Il est vénère quand il voit Magimel avec son nouveau mec. Alors, j'adore les nanars. On va le voir, il y a eu quelques nanars cette année. Et il y a quand même la scène la plus nanardeuse du cinéma français que j'ai vue cette année. C'est quand même l'accident de vélo. Il y a un accident de vélo de compète.
Mais on est d'accord que toutes les scènes un petit peu drama, un petit peu d'action, on va dire, dans le film, c'est des pièces rapportées. En plus, elles sont toutes ratées, quoi.
Tu sais quoi, ça a été tourné, mais je crois que ça a été tourné à l'iPhone. C'est pas possible, ce truc. Le vieux sexagénaire, donc il faut expliquer, c'est un vieux sexagénaire qui est le boyfriend de.
Danseur, chorégraphe.
Danseur à l'opéra, chorégraphe, petit ami de Magimel. Et donc, à un moment, ils font une randonnée à vélo, car c'est ce que font les riches là-bas, dans leur grande maison, dans leur grande villa. Ils font une randonnée à vélo et ils prennent de l'avance et à un moment,
ils ratent un virage.
Ils ratent un virage, mais tu sais que c'est impossible de rater un virage comme ça.
Attends, attention, non, ils ratent une légère courbe.
Mais c'est ça, la nuance.
Ils ratent une courbe et ils font « Ah, ça, par exemple
!» Sapristi, sapristi.
On aurait dit le professeur Tournesol, en t'entendant, il y a un truc
le mec là-dessus. Disparaît toute la soirée.
Et tu sais quoi, la salle a rigolé de bon cœur, parce que ça, c'était vraiment une scène qui fonctionne, parce que c'est tellement ridicule. Et en plus, il n'y a pas de tu vibres pas pour cette scène, puisque de toute manière, il revient après, il fait « Ah bah, je t'ai cherché partout. »
Ah bah, j'avais laissé mon téléphone sur le lit.
Et c'est un vrai problème de film, c'est que tous les problèmes qui se posent, il n'y a pas de problème, parce que de toute manière,
il n'y a pas d'enjeu.
Il revient après en disant « Bah, t'étais où ?» Et il y avait un autre problème de t'étais où, qui est
les enfants en mer.
Sont perdus en mer. Ils sont où ? Ils sont là ? Ah bah, on les a retrouvés, c'est fini.
Mais d'ailleurs,
et ça permet la résolution avec Marion Cotillard, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle sait qu'elle aime son fils. Donc,
quand elle vient le danger, tu
alors pour moi, la résolution Marion Cotillard, c'est quand elle se retrouve dans le lit de Gilles Lelouch et ils sont en train de regarder une comédie avec John C. Reilly et Will Ferrell. Voilà, qui est la meilleure comédie de tous les temps, comme chacun le sait. Et c'est le moment où je me suis dit, il y a quand même un beau moment de comédie puisqu'il y a la meilleure comédie du monde dedans.
Canet a bon goût, ça veut dire pauvre Vincent qui nous regarde.
Non, mais moi, dans un mois, je pars en week-end avec des amis, on fait nos 10 ans d'amitié. Et
vous allez au Cap Ferret ?
Et on va emmener un ostréiculteur, je pense.
Ah, il est de retour, hein. Il fume des petites gitas de maïs.
Et... Ah, il a beaucoup de scènes
en plus.
Il a plein de répliques cette fois.
Et cette fois, il lit la mer très bien. Je sais pas quel est son accent, mais en tout cas, il a l'air tellement...
Mais n'essaye pas, mais t'insultes des régions quand tu fais ça. Donc juste...
Non, mais moi, en plus, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait. Mais il a l'air de comprendre, de parler aux huîtres, cet homme. Tu vois, c'est un truc qu'il a en lui.
J'aurais aimé un petit mot peut-être sur Cluzet, qui est totalement fauché, qui insiste sur tout son parcours financier catastrophique, mais qui se trimballe quand même avec des billets de 100 euros dans la poche. Voilà, je tenais à le dire, c'est
parce
important.
Parce que bon, les apparences, ça compte. Mais non, moi, j'ai juste un petit mot sur quelqu'un que, pour le coup, moi, m'a fait rire dans le film, vraiment. C'est Lafitte, en fait, qui a 2-3 bonnes répliques, mais vraies bonnes répliques, et qui sait les délivrer. Mais il y a un vrai problème de traitement du personnage, encore une fois.
D'abord, c'est le seul qui n'a pas évolué.
Oui, c'est le seul qui n'a pas évolué, puis que clairement, tout le monde veut garder sous l'eau, en fait. Hein, c'est quand même assez terrible.
Il est humilié en permanence.
Merci les potes, quoi. Merci les potes.
Humilié en permanence, puisque à un moment, il doit garder un bateau pendant que les autres sont à la recherche. Et puis le bateau, il coule. Bah, il s'accroche, il est dans le vide. Sans doute, il est resté accroché pendant des heures. Et les gens se moquent de lui, oui. Alors qu'il a failli genre crever en mer, quoi.
Cluzet est mort de rire alors qu'il vient de perdre un bateau qu'il aurait pu revendre pour se refaire un petit peu. Je me suis dit, mais c'est totalement absurde. Ça n'a aucun sens.
Ils n'ont pas de relationnel. Ils font du son parler. Non, mais il y a un vrai problème de classe, en fait. C'est vraiment
ça. Voilà, il faut qu'on parle de la nounou.
La baby-sitteuse. C'est pas possible de parler comme ça à une baby-sitteuse.
Il faut préciser, hein, Gilles Lelouch est devenu donc acteur super connu, voilà, qui est très très riche. C'est ça, il a fait le grand bain. Il est devenu très très riche et donc il a une petite fille, un petit bébé et il se paye une nounou pour s'occuper du bébé pendant toute la semaine de vacances parce qu'il n'est pas capable lui-même de s'occuper de son bébé, même s'il donne des leçons en continu à la nounou et en plus en l'humiliant et en l'insultant.
Ah bah alors, tu peux pas te débrouiller toute seule, ah là là, qu'est-ce qu'elle a Mary Poppins, enfin...
La grosse.
Ah, la grosse, oui, il l'appelle la grosse, alors que la meuf... Il la paye pour qu'elle garde son gamin parce que lui n'est pas capable physiquement.
Il les laisse toutes les deux, donc nounou et bébé, il les laisse dans la voiture au départ. Je ne sais pas si ça vous a dérangé, mais je me suis dit, si ça c'est des facettes de la vie de Canet, c'est un petit peu gênant.
Ça, quand je l'ai entendu, je vais chercher mon bébé qui est dans la voiture. Comment ça, ton bébé est dans la voiture?
Ça fait 20 minutes que vous discutez.
40 minutes que vous êtes dehors.
J'espère que Marcel Canet est mieux traité que ça. C'est le petit.
Ah oui, c'est Marcel.
Marcel, ouais. Je suis en train de penser qu'il va bientôt être dans l'âge de regarder Batman, Dark Knight et tout ça, et donc il va voir sa mère mourir aussi.
Oh là là.
Et ça va être
pauvre enfant.
Ça va être terrifiant.
Bah, il pourra voir que c'est de la comédie.
On va on va peut-être passer à la suite de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Juste, on va faire une petite tradition. Combien vous payez pour aller voir?
J'ai payé 7,20€ parce que je n'ai toujours pas de carte cinéma. Et
combien tu penses que ça valait?
J'ai payé 7,20€, ça valait éventuellement les... Non, j'allais dire les 20 centimes, mais je me suis vraiment, vraiment ennuyé. Donc, allez, c'est combien la plus petite pièce en France? C'est un centime. On va dire 3 centimes.
Ah, c'est pas les petits... moi, ça vaut un mouchoir pour moi.
Tu fais l'arrondi sur salaire pour aider à la reconstruction de la comédie française.
Non, mais au moins pour payer le salaire de Laurent Lafitte de la comédie française, c'est vrai que c'est bien.
Et toi, Perrine?
Moi, je dirais que je paierais 2,20€, qui était le prix de mon café quand je suis rentrée dans la salle et qui m'a aidé à tenir. Vraiment, qui m'a beaucoup aidé. Merci le latté.
Donc merci le latté. On n'a pas aimé vraiment.
Au cas où les gens n'ont pas compris, on n'est pas fan.
On va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Il y a eu quand même pas mal de comédies. J'ai besoin de vous, les gars. Alors les plus, les moins, je vais vous demander ceux qui vous ont marqué. Mais il y a une comédie sur laquelle je ne sais pas. Est-ce qu'on les met dans les plus ou les moins? C'est Nicky Larson. Vincent, je sens que tu brûles de parler de Nicky Larson. Toi qui t'es fait insulter sur Internet parce que t'as pris la parole.
Petite vague de harcèlement parce qu'un youtubeur m'a répondu. Et donc tous ses abonnés sont venus me répondre aussi. Typique. Alors oui, Nicky Larson, moi je l'attendais non pas parce que je connaissais le manga, l'anime ou quoi que ce soit. Je m'étais un peu renseigné sur le personnage, j'avais parlé avec Daniel aussi. Mais plus parce que c'était le nouveau Lachaud qui est un peu le... l'enfant un peu béni de la comédie française actuellement.
C'est le Golden Boy.
C'est le Golden Boy à qui on fait des chèques sans aucun problème. Et aussi parce que c'est un film qui avait des scènes tournées à Cergy, notamment aux 12 colonnes, hein, un endroit que j'ai beaucoup fréquenté jeune. Et c'est une des critiques que j'ai, ça rend pas hommage du tout aux 12 colonnes à Cergy. Voilà, le Pont Rouge est très mal filmé. Enfin bref, j'avance.
Alors que Beaugrenel est très très bien filmé.
Beaugrenel est
très bien filmé dans Nicky Larson.
Oui, il y a des.
C'est ce que je dirais de plus positif.
Des scènes nocturnes, un peu avec des néons, très japonisants.
On peut dire que c'est un peu le comment il s'appelait déjà, le Black Rain français.
C'est un peu le Black Rain. C'est vraiment tourné à l'Allemagne. T'as l'impression que ça se déroule à Séoul, là. Vraiment, c'est super bien fait.
En termes de cinématographie, de photographie, je trouve que c'est beau. Il y a des beaux trucs, il y a des beaux plans, il y a un effort qui est fait, je trouve. Après, l'histoire en tant que telle, c'est toujours pour moi Philippe Lachaud qui a un problème avec les relations amoureuses entre hommes. Parce que l'objectif du film, c'est qu'il a été contaminé par le parfum de Cupidon. Et si dans 48 heures, il ne trouve pas le remède, il va tomber éperdument amoureux de Didier Bourdon, qui est pour le coup très drôle avec une coupe un peu qu'on découvre plus tard dans le film, mais une coupe un peu émo, à cheveux longs, à mèche. Il a une coupe à mèche qui est assez bizarre.
Là, tu dis un truc important du film, c'est-à-dire il tomberait amoureux. Moi, je suis déjà amoureux de Didier Bourdon. J'ai pas besoin de filtre. Si on filme un sérum comme ça, genre il y a aucun problème.
Le filtre n'aurait pas d'effet sur toi.
C'est vrai que depuis Garde Alternée, il y a un crush Didier Bourdon.
Évident. Ah non, mais Didier Bourdon all star.
Ce qui suit dans le film, pour moi, déjà parce qu'en plus moi ça me touchait pas vraiment. Je suis pas forcément la génération Dorothée, donc toutes les références, je les avais un peu plus ou moins salut les musclés, tout ça, et pour moi c'est du forcing de référence que je trouvais pas forcément super intéressant. L'histoire en elle-même non plus. Le personnage, j'ai un peu honte, mais le personnage secondaire, son acolyte, j'ai oublié le nom.
Kaori.
Kaori.
Je crois que c'est Laura en français.
Voilà, Laura. Qui elle est moquée, qui va retomber éperdument amoureuse de lui, mais qui est moquée sur son style vestimentaire, sur son apparence, constamment tout au long du film. Et leur relation entre eux, je trouve qu'il y a.
Il y a de lesbienne à un moment.
Oui, voilà, ouais. Il se moque ouvertement d'elle.
Il se moque d'une nana parce qu'elle est lesbienne en 2019.
Et en fait,
alors que le personnage est assez. Enfin, juste pour dire, le personnage original de Ryo Saeba, Nicky Larson, est quand même assez tolérant parce que, dans la BD, il promène sa bite un peu partout. C'est ça le gag de Nicky Larson. Mais par contre, il va dans des cabarets, il y a des ladies boys et tout ça. Enfin, c'est pas quelqu'un qui serait choqué par quelque chose comme ça. Et là. Ça a été Lachaudisé un peu quand même.
Voilà, ça a été, il y a eu un traitement au Karcher Lachaud là-dessus, ce que je trouve dommage. Apparemment, du côté Japon, ils ont adoré parce que Lachaud a juré, il a amené les planches, il a montré qu'il connaissait le matériel de base a priori, de ce que j'ai pu en comprendre. Et côté Japon, mais après si côté Japon, c'est pas la même culture non plus. Je pense que voilà,
c'est pas un vrai argument. Hein. J'ai rien contre l'auteur, mais Tardy avait dit beaucoup de bien d'Adèle Blanc-Seec.
Non, mais ce que je veux
il
dire...
a dit que c'était une adaptation parfaite. Aujourd'hui, qui irait dire ça?
Mais déjà à l'époque. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un argument marketing et c'est devenu un argument pour les fans de certains fans de Nicky Larson qui défendaient le film en disant mais regardez, l'auteur a validé. Ce qui pour moi n'est pas un argument, parce qu'effectivement pour moi c'est un film de Philippe Lachaud. Je les confonds décidément. C'est un film de Philippe Lachaud. C'est pas pour moi une adaptation directe de Nicky Larson. Ça reprend l'univers. Ça reprend les personnages, mais c'est son histoire à lui, sa vision des personnages, sa vision de certains sujets de société, notamment des relations homo, etc. Et pour moi, c'est un truc que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai trouvé lourd, et même dans la salle, je sais pas, et puis je sais pas, j'ai pas vu le film s'implanter auprès du public comme ça a pu être avant. Donc je sais pas quels sont les retours d'audience là-dessus, mais moi j'ai pas trouvé ça, et j'ai l'impression qu'on l'a vite oublié au fait, à part le matraquage marketing de base. Après je pense que...
Max, toi qui l'as vu, est-ce que ça t'a fait rire? Est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien que par rapport à Alibi ou à...
Bah, pour l'instant, moi, de tous les films de la show, alors le fait est que j'ai commencé par, Libby.com. J'ai vu Babysitting 1 et Babysitting 2 après, et j'avoue que Libby.com reste pour l'instant mon préféré, si je peux le qualifier comme ça. Nicky Larson, moi, j'ai pas du tout rigolé. C'est une avalanche de références, mais qui sont des références faciles. Il n'y a pas vraiment d'écriture. C'est juste, je te balance un milliard de petits clins d'œil à Dorothée, à machin, aux années 80-90. Et je trouve que c'est assez, assez maladroit. Voilà, après, je comprends qu'on puisse kiffer l'exercice de style. C'est pas, pour moi, c'est pas Nicky Larson. Pour moi, Nicky Larson, c'est les voix complètement folles de la version française qui avait été adaptée de façon absolument monstrueuse. Et,
ça ne se ferait pas aujourd'hui.
Non, mais voilà, ça se ferait absolument pas aujourd'hui. Mais ça relève pour moi vraiment du génie, l'adaptation française de Nicky Larson. Et ce qui. Non, mais littéralement, la façon dont les voix ont été abordées, c'est vraiment dingue. Et c'est le souvenir que j'ai de Nicky Larson. Moi, je ne connais pas City Hunter. J'ai jamais ouvert un manga City Hunter. Je ne connais pas du tout le matériau d'origine. Nicky Larson, pour moi, c'est juste des voix rigolotes avec des personnages rigolos, caricaturaux, et ça s'arrête là. Et le souvenir que j'en ai, c'est le souvenir que j'ai envie d'en garder aujourd'hui. Et la vision de Philippe Lachaud, bah, moi, ne m'a pas intéressé parce que bah, c'est pas mon souvenir d'enfance. Point barre, en fait. Ça va pas plus loin. Et il en reste une comédie qui ne m'a pas fait rire, avec des acteurs qui jouaient de façon quand même assez nulle pour la plupart. C'était vraiment, ça volait pas très très haut. Quelques chouettes moments de réal.
D'action.
Ouais, quelques chouettes moments d'action.
Je trouve que Laura tout n'est pas à jeter.
Ouais, j'irai pas jusque là. Moi, je trouve qu'ils jouent tous les deux assez mal. Je trouve que ça sonne faux, en fait. Mais voilà. Après, c'est pas le problème des acteurs en eux-mêmes. C'est peut-être simplement une question de direction. Mais quoi qu'il en soit, voilà, quelques jolis moments. Je pense notamment à la phase qui est filmée en vue subjective à la GoPro, qui fonctionne vraiment bien. Mais sinon, voilà, globalement, c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Et je suis complètement d'accord avec Vincent. J'ai l'impression qu'il est sorti. On en a parlé pendant 15 jours. Et puis, ça y est, c'est oublié. On est passé à autre chose. Mais comme j'ai l'impression, un peu tous les films de la show.
Bon, on avait passé. Écoute, le truc un peu positif que je dirais, c'est quand même mieux que Épouse-moi mon pote.
Qui n'est pas un film de Lachaud.
Oui, oui, mais voilà, mais c'est le même galaxie, quoi.
C'est, ouais.
Je voulais être quand même positif, et on a vu quand même quelques comédies intéressantes, et il y en a une qui nous met un peu d'accord. Perrine, je vois que tu boudes d'en parler. C'est une inconnue.
Mon inconnue.
Mon inconnue. Ah, pourquoi c'est. J'ai dit une inconnue. Mon inconnue. Qui est un peu le film de Hugo Gélin.
C'est carrément le film d'Hugo Gélin.
Oui, qui est une rom-com. Et voilà, il y a très peu de rom-com maintenant qui sortent pile pour la Saint-Valentin. Et donc, elles sortent maintenant en mars, avril. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, c'est plutôt agréable, en fait.
Pour moi, c'est une vraie totale réussite, en fait. C'est-à-dire que une vraie rom-com, c'est-à-dire une vraie de vraie où la partie romantique et la partie comédie sont à peu près équivalentes, sont vraiment dans les deux. Il n'y en a plus beaucoup, en réalité. On a tendance à foutre le mot rom-com sur plein de choses qui ne correspondent pas réellement à la rom-com, en fait. Et là, clairement, Hugo Gélin rentre dans tous les codes pur et dur de la comédie romantique. On a vraiment cet aspect romance avec ce couple joué par François Civil et Joséphine Japy, qui sont sincèrement hyper choupis.
Ils sont craquants.
Non, mais ils sont hyper choupis.
Tu tombes amoureux d'eux, ce qui est la base.
Et t'es content qu'ils soient ensemble, et t'es content qu'ils s'aiment, et t'es content qu'ils cherchent à se retrouver, en fait. Et ça, c'est quand même le plus important dans une rom-com. Et après, on a vraiment cette efficacité comique, donc qui vient aussi parfois de Joséphine Japy, mais surtout particulièrement
de Benjamin
Laverne. Voilà.
C'est grande, on l'avait vraiment vu dans Le Sens de la Fête.
Oui.
Il est en train de se faire un nom en tant que second rôle rigolo, quoi.
Ah non,
fait.
Mais il est parfait. Dans Le Sens de la Fête, moi, c'est un peu lui qui a contribué à me sauver le film. Et donc, il est déjà assez extraordinaire en gendre insupportable. Et là, on a ce personnage qui a un timing comique, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vraie comédie où il y avait un si bon timing comique. Et le duo avec François Civil fonctionne. C'est un vrai duo comique, ils s'entendent très bien, il y a une vraie connexion à l'écran.
C'est un truc très classique en plus, mais qui fonctionne.
C'est hyper simple, c'est-à-dire que ça reprend des principes qu'on a vu, revu.
Le buddy, quoi.
Mais c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bien fait, bien pensé, puis l'introduction du fantastique dedans, où pour moi, là, Hugo Gélin tend clairement du côté de Richard Richard Curtis, ce qui pour moi est un énorme compliment. C'est un énorme compliment de tendre vers Richard Curtis. Je trouve qu'on a cette même magie là. Moi, j'ai envie de vivre dans ce monde que me décrit Hugo Gélin, en fait. C'est-à-dire, c'est un monde qui me semble très agréable. C'est un monde, oui, ok, la fin, on peut la deviner, on se devine bien que le couple va finir ensemble, mais on peut pas le deviner de cette façon là. C'est des personnages qui évoluent, c'est des personnages qui apprennent. Pardon, j'ai plus de voix, qui apprennent. Mais en plus, sincèrement, moi, j'ai surtout ri beaucoup. Beaucoup pendant le film, mais j'ai des répliques qui me sont restées en tête, puis des tatouages ping et pong qui pour moi restent maintenant des grands moments de cinéma. Non, puis c'est Vincent, bien pensé.
Vincent, tu t'es tatoué ping et pong ?
Non, mais j'allais te le proposer après l'émission. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, je l'ai vu, et effectivement, je repense, c'est un film qui m'est resté un petit peu sur des répliques, le coup du pull fluo, le pull violet, ou je sais plus exactement.
Lila, ou je sais pas quoi.
Et effectivement, Benjamin Laverne, je trouve qu'en plus, il est vraiment d'autant plus intéressant en sidekick que c'est pas celui qui va forcément tirer le héros, le personnage principal vers le bas. C'est-à-dire que c'est grâce à lui, justement, qu'il avance, et au final, il a la position un peu de lourdeau, rigolo, et en même temps c'est celui qui l'aide vraiment à progresser, qui l'accompagne, qui lui croit et tout, qui le motive. Et donc ça, en soi, j'ai trouvé ça vraiment assez malin, et effectivement je trouve qu'il a j'espère qu'il va avoir de plus en plus de rôles même principaux. J'aimerais bien le voir sur des trucs un peu tendres, amers, ce genre de choses.
Il a fait des comédies avant et qui n'étaient pas toutes bonnes, en fait, et c'est con parce que je lui en voulais, parce que mais en fait c'est dur de porter une comédie quand les textes sont pas bien écrits, quand l'histoire est naze. Et là, coup sur coup, il a vraiment des bons rôles à jouer. Et ça,
après,
fait
il a un truc un peu à la, et c'est pas étonnant, les deux font partie de la comédie française, mais moi il me fait un peu penser à Laurent Lafitte aussi, dans cette idée d'être capable d'un petit peu tout interpréter, d'avoir son visage est ultra expressif aussi, comme Lafitte en fait, mais sur des jeux totalement différents. Ils ne jouent pas de la même manière, mais ils ont ce même talent de tout de suite, ils ont énormément de charisme, ils arrivent tout de suite à incarner ce personnage auquel tu crois. Et en plus, tu disais, t'as raison Vincent, il tire le personnage de François Civil vers le haut, mais encore mieux, c'est-à-dire que je trouve qu'en plus, il a un propre arc narratif qui m'intéresse et qui est sincèrement touchant. Quand ce personnage décide de ne plus être drôle, moi, il m'a tiré les larmes. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sacrifie pas ce personnage secondaire sur l'autel de la romance. C'est-à-dire que tout coexiste. Enfin, je trouve que là, il y a un petit truc d'alchimiste dans Mon Inconnu que je n'avais pas vu depuis très 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 longtemps au cinéma français, mais dans le cinéma même, on peut largement élargir à mondial, en fait.
La seule petite critique que j'aurais, c'est que, et c'est ma copine en sortant de la salle qui m'a fait remarquer, c'est qu'effectivement, on a essentiellement le point de vue du personnage principal, pas celle donc de Joséphine
Japy,
de son personnage, et donc elle, on la voit moins tomber ou retomber amoureuse de lui, ce que je trouvais un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que ça a amené un petit peu de manière un peu rapide, alors que lui, dès le départ, il est tout de suite amoureux et tout, etc. Donc ça, c'est peut-être la seule critique que j'ai. Et aussi, j'ai une question, c'est est-ce qu'ils vivent sur le toit de la maison de la radio ou pas ? Parce que vraiment, à un moment, ils sortent sur leur balcon et ça ressemble vraiment au bâtiment de la maison de la radio.
C'est un des bâtiments de...
Voilà, et c'est vraiment le quartier. Donc voilà, c'est ma seule question.
Je crois que la formation de cet avis, quand même, que tu n'es plus un cœur à prendre, je me dirais...
Décidément, aujourd'hui, sort des phrases que je n'attendais pas du tout.
Que c'était le podcast de Voici, en fait.
Je me dirais, je vais faire un autre cœur à prendre. Max,
ouais.
On a vu All Inclusive ensemble.
Ouais, alors juste avant, j'aimerais quand même dire que Mon Inconnu, moi je ne l'ai pas vu, mais vous m'avez vraiment donné envie de le voir. Et pendant toute la conversation, j'étais en train d'imaginer Daniel Gélin à la place d'Hugo Gélin. Ça me donne encore plus envie de le voir.
Max, on a vu All Inclusive ensemble.
Oui. Oh là là, on a ri.
Est-ce qu'on le met dans les biens ou dans les mauvais? Parce que...
Non, c'était très nul.
Moi, je trouve ça très nul et très bien,
en fait. Mais qu'est-ce qu'on a ri ?
On a beaucoup rigolé, alors que...
Mais c'était vraiment nul.
Mais du film ou avec le film ?
Les deux.
Les deux.
Honnêtement, les deux.
Tout était réuni pour que ça passait un mauvais bon moment. Et je sais pas comment te décrire ça. C'est quand même la suite logique de Camping 3.
Ouais.
Mais en même temps, c'est le métafilm de Camping 3, puisque c'est le fanfic des bronzés.
C'est un univers connecté. Voilà.
Wow, je ne savais pas qu'il y avait ce univers.
C'est un multivers.
Il y a des blagues qui concernent les bronzés. Beaucoup.
Bah, t'as des personnages en commun, de toute façon.
Il y a Josiane,
il y a Thierry Lhermitte.
Vraiment, c'est très bizarre. Et tu sens que Franck Dubosc, il est au bout du rouleau de faire ça. Et en même temps, où je pense que Fabien Antonietti, il a genre il a kidnappé sa fille ou quelque chose comme ça. Et donc, je crois qu'ils ont un deal comme ça. Il l'appelle, il fait, tu fais ce film-là pour moi. Et voilà. Et,
oh, c'est Taken, en fait, la fille de Dubosc.
Et en fait, Franck
Dubosc. Non, c'est pas ce mec en danger, en fait. On le sait pas. Hein.
Et Franck Dubosc, il débarque. Il est à 100%. Alors que François-Xavier de Maison. Bon, personnellement, pas mon truc.
Non.
Pas mon truc, mais du coup, face à lui, face à quelqu'un d'aussi aussi neutre que François-Xavier de Maison, c'est peut-être le partenaire idéal de Franck Dubosc, en fait.
Ouais, parce il est en roulis, ça se demandait s'il n'est pas en impro 90% du temps dans ce film. C'est vraiment le Dubosc dans toute sa splendeur.
Il y a en plus un talent auquel je crois, c'est Mister V, un YouTuber qui est dedans. Il joue le rôle de Pépito.
Alors, si je peux avoir une mini-parenthèse au YouTube, il fait des vidéos et notamment un court-métrage Mac Walter 3 que je trouve très drôle, que je vous encourage à aller voir.
Voilà. Ce mec-là a une telle énergie...
Je note que Vincent n'a pas encore clashé Mister V.
Ce mec-là a une telle énergie, je suis complètement fan de ce type, j'ai envie d'en voir plus.
Ah oui, Mister V, c'est mon comique préféré. Donc, de cette nouvelle génération de très très loin.
Donc voilà, je pense que c'est une comédie nulle, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est un très mauvais cas, je pense.
Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont vraiment hilarants, il y a beaucoup de choses qui tombent à plat, il y a beaucoup de moments gênants aussi, notamment la façon dont est traité le personnage joué par Josiane Balasco, qui impose des moments assez... hors du temps, je sais pas comment les qualifier.
Pauvre Josiane.
Ouais, je sais pas si c'est pauvre Josiane ou si elle s'est vraiment éclatée dans ce rôle-là, mais elle est en roue libre absolue. Mais c'est vrai qu'il y a, je retiens quand même quelques scènes. La scène d'ouverture est vraiment hilarante. Sa scène miroir à la fin du film est tout aussi drôle. Et puis, ouais, il y a quand même pas mal de bonnes punchlines, des personnages complètement atypiques, complètement barrés. Donc voilà. Après, ça reste une comédie. C'est assez bas de gamme, quoi. Vous attendez pas.
Je pense que c'est au niveau de qualitatif d'un sandwich Sodebo sur le bord.
J'allais dire, c'est le EasyJet de la comédie. Ça a rien de mal. Moi aussi, je prends EasyJet parce que c'est pratique et pas cher. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre, quoi.
Putain, Sodebo EasyJet. On va être un petit peu plus positif. C'était une surprise pour moi parce que c'est pas d'habitude, son cinéma n'est pas un truc qui me fascine. Mais Mon bébé de Lisa Azuelo. Et très bizarre, j'ai pris plaisir alors que, toi, t'as écarté les yeux, parce que je trouve que c'est un film où Sandrine Kiberlain est absolument en roue libre et elle est super dedans. En fait, le film ne raconte absolument rien.
Ah non, je suis pas d'accord là-dessus.
Ah ouais, tu trouves... Ah putain, débat. Bon, en fait, moi, je trouve que le film, il n'y a pas d'enjeu, il y a zéro enjeu dans le film, mais c'est une chronique de la vie d'une maman. Et je trouve ça assez mignon, en fait.
Bah, là, je pense pas que tous les films nécessairement sont obligés d'avoir un espèce de grand. D'un énorme arc narratif, oui, un gros truc à résoudre.
Mais si tu veux, dès qu'il y a un truc à résoudre, c'est genre, ah, elle a oublié son portable, ah, il passe son localisé iPhone, et du coup, il course en scooter dans Paris pour essayer de le trouver. Puis à la fin, il dit, bah non, laisse tomber, et elle fait juste des câlins à ses enfants.
Non, mais ça, moi, je trouve ça plutôt. En vrai, je trouve que c'est une scène plutôt réussie pour le coup, et c'est peut-être la scène pour moi où d'un seul coup, les ados. Les jeunes, me semblent intéressants dans le film, en fait. Et donc, c'est-à-dire que ce qui est bien dans Mon bébé, c'est clairement Kiberlain. Moi, je voudrais qu'il y ait tout le temps Kiberlain, partout, dans tous les films, tout le
temps.
Elle est drôle. Elle est extraordinaire, cette femme. Elle est d'une drôlerie sans nom.
Elle a vraiment un don comique, quoi.
Elle joue avec une justesse folle. Elle crée un espèce d'univers à elle toute seule. Et j'y crois. Et c'est génial. Et le problème, c'est que dans le film, il y a les autres. Et le problème, c'est qu'il y a les... Et
en fait, clairement... Il y a sa fille.
Mais en fait, le problème, c'est que je pense que Lisa Azuelos, elle est clairement plus proche du personnage de Kiberlain en âge, en stature. Ça doit être une maman aussi. Enfin, tu vois, je pense qu'elle est plus proche de ce personnage-là. Donc, elle la comprend mieux, elle la filme mieux, elle la scénarise mieux que les ados. Je sais pas quel âge a exactement Lisa Azuelos, mais... À mon avis, elle est plus proche de cet âge-là d'adolescence. Donc, clairement, quand elle les décrit, c'est forcément un peu caricatural, c'est forcément pas très juste, en fait. Donc, moi, j'y crois pas en ces gamins. Et ces gamins, je veux les taper, en particulier cette jeune fille. Donc, je veux les taper mais c'est parce que d'un seul coup, ils ne me paraissent pas réalistes. Enfin, ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Eux ont des enjeux qui me dépassent. Enfin, vraiment. Mais moi non plus, je suis plus une ado, peut-être. Mais, si, clairement, je suis plus. Mais voilà. Donc, il y a un. C'est ça mon problème avec Mon bébé, c'est que ça parle à deux parties de mon cerveau qui communiquent pas, en fait. C'est que d'un seul coup, je suis passionnée passionnée par le personnage de Key Berlin, qui justement, je trouvais, est un très beau portrait de mère intéressant, de comment on fait le deuil d'une partie de sa vie, c'est-à-dire qu'on a vécu pour d'autres personnes pendant une longue partie de sa vie, et d'un seul coup, on doit redevenir cette personne qu'on était avant eux. Et donc, c'est comment reconnecter tout ça et prendre conscience des évolutions de soi-même et des autres. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais toute la partie à côté sur les ados, je m'en fous en fait, et ça ne fonctionne pas. Donc le film, je suis à moitié intéressée, à moitié ok.
Écoute, on va terminer sur une note positive, j'imagine, avec le diptyque, j'allais l'appeler le raciste diptyque de l'année, qui est quand même qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, et je me garde Tanguy 2 puisque je suis le seul à m'être dévoué pour aller voir Tanguy 2.
Et d'ailleurs, bah alors vas-y, Tanguy 2, c'était bien?
C'était horrible. C'était un moment ignoble à passer. Je pense que c'est un des pires films que j'ai vu depuis que je fais MDR.
Sérieusement?
C'est triste pour tous les gens impliqués. C'est vraiment Étienne Châtiez qu'on a tous aimé à un moment de notre vie. Mm-hmm. Forcément, il a fait d'un film qui nous a marqué.
Tanguy, c'est fabuleux.
Je suis pas fan de Tanguy.
C'est vrai, moi j'adore.
Tati Daniel, quoi.
Mais pour moi, ouais, Tati Daniel, pour moi, La vie est un long fleuve est quand même très très drôle. Et là, il nous donne un running joke de André Dussolier qui a un problème de prostate et qui passe son temps à pisser. Il n'y a pas de finalité dans le gag. Et puisque je parlais de diptyque raciste, il faut quand même dire, c'est quand même un des films les plus racistes que j'ai vu sur la communauté asiatique depuis très longtemps. Et j'ai vu Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc je sais de quoi je parle. c'est les Asiatiques qui sont toujours représentés, mais vraiment niveau bol de riz, quoi. Niveau un cocompate. C'est vraiment, il y a ça, il y a ce genre de vanne dans le truc. Dès le début, ça balance la musique Suzy One. Genre, ping, 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 ping.
C'est pas de la musique traditionnelle.
Non, mais il y a un mec qui m'a expliqué que si tu appuies sur toutes les touches noires d'un piano, ça fait type musique asiatique de voilà, simili. Et ben en fait, t'as l'impression que c'est ça. Alors peut-être le musicien est super talentueux, mais juste c'est le combo des images et de la musique qui fonctionne pas. Et puis évidemment tous les asiatiques qui parlent en proverbe. Grand voyage commence quand l'ami de pain a touché le riz. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça.
Bah, comme moi quand je discute avec des potes. Hein.
Il est super ce proverbe.
Que des trucs. Je l'ai inventé. Et ils citent tous Lao-Tzu. Et genre, c'est horrible. Et en plus, surtout un autre truc, c'est que c'est vraiment pas drôle. C'est super gênant pour tous les gens impliqués. Ah, j'ai détesté Tanguy le retour.
Tu me donnes trop envie de le voir. Envie de le voir.
Mais je sais, et c'est le risque de faire des chroniques comme ça. Alors que, tu vois, Alien Crystal Syndrome, qui est le film de Ariel Dombal,
Crystal Palace.
Ariel Crystal Palace. Alien
Syndrome.
Alien Syndrome, c'est un jeu vidéo
sur Mega Drive. Brofist.
Tu sens qu'on est vieux, on est yov. Donc voilà, Tanguy 2, c'était horrible. C'est un des pires films que j'ai vu cette année. Et parlez-nous de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
Ah, moi je vous écoute parce que je suis toute oui, je l'ai pas vu.
Nous on allait le voir en plus le 1er janvier.
Comme par hasard.
Pour commencer l'année.
Le jour de mon anniversaire pour être sûr que je vienne pas avec eux, je note.
C'est vrai que tu t'as décliné, je comprends pas pourquoi.
Non, mais c'était intéressant parce qu'on voit la salle on était dans une salle de personnes qui avaient vraiment envie de voir ce film-là. Il y avait de la tension chez les gens qui avaient piqué les places d'autres. Enfin, ça se bagarrait un peu presque. Ça reprend les mécaniques du premier. Là, ça exacerbe encore plus, je trouve, le côté où Christian Clavier et passe pour le gars un peu sensé face à sa femme, face à ses gendres qui, eux, sont racistes entre eux. Donc, ça passe forcément, puisque c'est des personnes d'origine immigrée qui sont racistes entre eux. Donc, forcément, bah oui, ça passe, c'est logique. Et puis, Christian Clavier qui les regarde, fait « Ah, bah vous voyez !» Enfin, c'est un peu ce genre de...
Je me déculpabilise, vous voyez, voilà, vous aussi,
voilà.
Le raciste.
Vous voyez.
Et ça va... Ça
tu
va,
vois très bien que Christian Clavier fait « Vous voyez, vous voyez !»
Et juste pour reprendre un petit peu tout le synopsis, c'est quand même Christian Clavier pour faire en sorte que ses filles ne partent pas à l'étranger.
Qu'on voit presque pas, ouais, elles ont presque pas de rôle.
Ils sont vraiment invisibilisés là-dessus, qui, quand elles parlent, elles discutent uniquement dans la cuisine ou ce genre de choses. Hein, on est vraiment à ce degré-là. Christian Clavier qui va faire en sorte avec Chantal Lobby que ses filles et ses gendres ne partent pas à l'étranger parce qu'ils en ont marre de la France. Hein. Il y en a un, il dit il y a trop de ronds-points. Il présageait déjà un petit peu l'époque.
Alors, par contre, ça, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est une bonne vanne.
Notamment dans le 95, pour revenir à ça. Il y a beaucoup trop de ronds-points.
Pour moi, la vanne, c'est que Christian Clavier Xavier doit faire aimer la France.
Voilà, c'est ça. Il leur dit, mais attendez, vous avez tous voté Macron, vous êtes contents, non? Enfin, voilà.
C'est la France du général de Gaulle.
Et donc, ce qu'il fait, il veut les convaincre de rester en France et il leur fait une espèce de tour touristique en Touraine, à Tours, à Chinon, je crois.
Ah, je connais très bien la Touraine.
Oui, mais moi
j'adore.
Aussi. Mais c'est super joli, il y a des châteaux magnifiques et le vin est très bon. Allez goûter du Saint-Nicolas de Bourgueil, s'il vous plaît. Et globalement, en fait, sauf qu'il paye absolument tout le monde pour leur faire croire que c'est cool, qu'il faut rester là, etc. Il va faire croire notamment qu'il y a un homme noir qui bosse chez un viticulteur, alors que c'est le chauffeur de taxi qui les avait ramenés de Paris jusqu'à Chinon parce qu'il y avait des problèmes de TGV, je sais pas quoi. Oui, parce que le TGV, ça va jamais en France, etc.
Oui, oui.
C'est ce genre de discours-là. Et c'est ça tout le film. Et Chantal Lobby va jusqu'à même à un moment trafiquer une photo de manifestants tibétains pour y inclure le personnage de Frédéric Chau, l'envoyer à l'ambassade chinoise pour pas qu'il ait de visa pour pouvoir partir en Chine.
Et on dirait presque un plot de Mission Impossible.
Ah ouais, non, mais c'est ça va très loin, très loin. Et le racisme, enfin les clichés sont toujours là.
Rappelons, je parlais de la communauté asiatique.
Ah bah voilà,
Chau, il a peur des Arabes. Donc du coup, il va dans une armurerie et on lui propose que des nunchaku. Il fait ah ouais, parce que je suis asiatique. Et donc déjà. Et ensuite,
Il part avec les nunchaku.
Et ensuite il va chez son beau-père. Mais chez son beau-père, ils ont recueilli un clandestin afghan et il lui balance un shuriken dans la gueule. C'est à ce niveau-là.
Il rate et ça casse la vitre. Mais voilà, effectivement, oui. il lui tire dessus, il réagit comme ça. Et effectivement, c'est toujours ce mécanisme-là. Faire passer des clichés comme ça à travers des personnages dont on soupçonnerait jamais un propos raciste ou un comportement trop cliché. Et donc, on fait passer ce truc-là et Clavier, il en sort grandi. Et je voudrais juste insister aussi sur le fait, parce qu'il y a une autre intrigue un peu parallèle sur un couple homosexuel, c'est une des filles du père, j'ai oublié, etc. Mais
c'est le beau-père du premier film.
Voilà, le beau-père du premier film qui découvre que sa fille est homosexuelle et qui refuse d'aller à son mariage. Et c'est la fin du film. Christian Clavier, il va lui dire ah c'est dommage, il y a du tourne-dos au banquet. Et lui dit quoi, il y a du tourne-dos de machin. Et il se lève, il va au mariage de sa fille et tout va bien. L'homophobie est guérie grâce au tourne-dos de je ne sais plus.
Ah ouais, on emmerde les véganes, quoi.
Oui,
Et qu'est-ce qui est le plus fort? Qu'est-ce qui est la meilleure arme contre l'homophobie? Est-ce que c'est le tourne-dos ou le hug de Magimel?
Eh ben, je pense qu'il y a débat. Ça peut faire
une
battle. Ça peut faire une battle. Et vraiment dernière anecdote. Mais à la fin, il lui offre les trois gendres offrent à Clavier un képi du général de Gaulle. Et tous ensemble, ils saluent un peu la mémoire du général de Gaulle face à lui des personnages d'origine immigrée, notamment je pense un qui est d'origine algérienne si je me trompe pas dans le film.
Amédie.
Voilà Amédie. Et j'étais là, je dis ok, et ça c'est la fin du film.
C'est très bizarre de la part de Mehdi Sadoun de faire ça. Et Mehdi Sadoun qui signe la BO à la fin, le peura à la fin.
Ah oui,
très
Ah mais tout, mais d'un point de vue même transmédia, tout est gênant dans ce film. Rien ne va. Voilà.
Max, tu veux ajouter quelque chose?
J'ai tellement envie de le voir aussi. Non, mais je crois qu'on est arrivé à un point de réac attitude dans le cinéma de Clavier que finalement c'est peut-être en fait du 15e degré qu'on n'a rien compris. Et
alors oui, c'est ça qu'il faut dire.
Ça aussi,
c'est que c'est peut-être nous qui sommes dans l'erreur. Hein. On est là,
on se prend trop la tête et
peut-être
vérité,
on dit notre avis et tout. Mais on a vu quand même.
C'est justement pour piéger des abrutis comme nous, quoi. Je sais pas.
Peut-être. En tout cas, MDR est de retour. Merci à Quentin, notre très beau gosse à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, car c'est le grand retour de MDR. Donc, faites-le savoir. On vous dit à très 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 bientôt et on vous embrasse très fort. Ciao.